Législative 2012, 3e circonscription de la Drôme.
Une émission spéciale consacrée aux élections législatives avec en invité un candidat du premier tour,
3e circonscription de la Drôme.
Une émission proposée par Yves Glorian pour RDIWA avec Baptiste à la réalisation.
Corinne Morel-Darleux, bonjour.
Bonjour.
Vous vous présentez aux élections législatives 2012 pour la 3e circonscription de la Drôme.
C'est ça.
Qui représente le secteur de Cré, Nyons et dit entre les deux.
Oui, c'est la plus grande circonscription de France en fait. Elle va du Vercors jusqu'aux limites du Vaucluse.
Vous êtes née à Paris ?
Oui.
Voilà, il y a 38 ans, donc je me lance sur une petite biographie. Hein. Vous avez fait une école supérieure de commerce, un doctorat britannique, et ensuite vous avez voyagé en Amérique du Nord, en Europe. Vous vous êtes lancé aussi dans une galerie d'art contemporain. Vous êtes intéressé par l'art contemporain ?
Oui, tout à fait. Oui, oui, effectivement, on a ouvert une galerie d'art contemporain qu'on a tenue pendant un an et demi environ. Et qui a eu, comme beaucoup d'initiatives de ce genre, un joli succès d'estime, mais pas forcément une viabilité économique à long terme, et qu'on a donc été obligé de transformer pour être plus modeste.
Ensuite, vous avez, vous êtes lancé dans une carrière professionnelle, dans des groupes de conseil, auprès de grandes entreprises multinationales. Et donc là, vous avez eu, comme vous dites, un poste privilégié pour observer un peu les conditions de ces multinationales, de comment elles exercent
oui,
leur
tout
commerce.
À fait.
Et donc
oui, bah effectivement, donc pendant 5 ans, j'ai été consultante et formatrice, donc j'ai travaillé en France et puis un petit peu à l'international pour animer les séminaires de direction de ces grands groupes, Sanofi, Aventis, Total, Gaz de France, Suez, Renault. Et c'est vrai que pendant 5 années, j'ai eu comme ça la possibilité de voir de l'intérieur le système fonctionner et d'y apprendre énormément de choses qui me sont aujourd'hui très utiles maintenant que je suis passée, on va dire, dans le camp d'en face et de l'autre côté de la barrière. C'est toujours intéressant de connaître aussi ceux que l'on combat.
Et puis à la suite, donc, vous vous êtes lancé aussi dans la fonction publique.
Oui, c'est-à-dire que pendant ces 5 années de conseil, moi j'ai eu une conscience politique qui est allée grandissant. Et au bout d'un moment, c'est devenu pour moi totalement schizophrène de continuer à travailler dans ce milieu-là et de lui apporter mon temps, mon énergie, mes compétences. Et donc au bout de 5 ans, j'ai fini par démissionner de ce poste-là pour chercher un travail qui ait une utilité sociale plus importante. Et donc j'ai cherché du travail dans la fonction publique et j'ai été embauchée dans une mairie au service éducation. Donc je me suis occupée à ce poste-là de toutes les écoles maternelles et élémentaires de la ville, en Seine-Saint-Denis, donc avec un rapport à la réalité sociale évidemment très différent des entreprises du CAC 40 et de la Défense à Paris, puisque là j'ai été confrontée aux parents qui n'ont pas les moyens de payer la cantine de leur gamin à la fin du mois, à ceux qui sont en logement chez ce qu'on appelle les marchands de sommeil et qui donc avaient des difficultés dans d'autres communes pour inscrire leur enfant à l'école. Donc moi je les recevais, j'essayais de faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à ces inscriptions, mais aussi des problèmes plus techniques sur les bâtiments par exemple. Donc voilà, des choses très variées, mais avec un contact avec une forme de misère sociale et avec une forme de réalité qui évidemment a aussi beaucoup contribué à mon engagement politique par la suite.
Corinne Morel-Darleux, vous êtes candidate pour le Front de Gauche sur la 3e circonscription de la Drôme. Est-ce que justement aller vers la fonction publique et donc se retrouver à devoir aussi défendre le statut des fonctionnaires publics et de, on va dire, l'action sociale en France, est-ce que c'est une facilité par rapport à devoir combattre le système capitaliste en vivant ce qu'il produit ?
Disons que je ne sais pas où est la facilité. Je ne sais pas si la facilité elle est dans le fait d'être consultante à Paris, payer 4000 euros par mois, ou si elle est dans le fait d'être élue régionale à Die avec une indemnité de 2000 euros, puisque concrètement, il y a aussi ça. Moi, il est clair que n'y a pas un seul jour où je regrette en tout cas ce choix et cette bifurcation. Et je pense qu'il y a plein de manières différentes de résister et de combattre le système et d'essayer d'inventer des alternatives. Je crois que dans le Diwa notamment, justement, des alternatives concrètes, il y en a plein qui se construisent. C'est aussi une autre manière d'entamer ce système-là. Et moi, je prêche toujours pour trois niveaux d'action. Le niveau individuel, c'est-à-dire que voilà, par nos comportements individuels, par nos choix de vie au quotidien, on a une possibilité d'influencer le système. Le niveau collectif, c'est-à-dire tout le travail associatif, syndical, politique, la création d'AMAP, de coopératives d'habitat, qui peut permettre aussi d'inventer d'autres choses. Et puis le troisième niveau, qui est le niveau institutionnel, et c'est le combat que je mène moi en tant qu'élu, et en tant que candidate, pour faire en sorte que toutes ces idées, tous ces combats soient aussi représentés dans les lieux de pouvoir, et notamment à l'Assemblée nationale, où se votent les lois qui encadrent toute cette activité-là. Donc voilà, moi je pense qu'il y a ces trois niveaux-là, et j'ai essayé de faire des choix de vie à la fois personnels et professionnels qui me permettent d'agir à ces trois niveaux.
Ma question était plus, est-il possible de lutter contre un système capitaliste en travaillant pour lui ?
Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est possible. Moi, quand j'étais consultante, et notamment à la fin de ces 5 années de conseil, j'avais des moments où j'étais à la limite du sabotage de l'intérieur. Quand j'allais former des managers à l'entretien annuel d'évaluation, je le faisais évidemment d'une manière qui n'était pas forcément celle de tous les consultants, en me mettant aussi du côté du salarié et de la défense de ses droits. Donc d'abord, il y a cette première réponse. Et puis la deuxième, c'est que moi, je crois fondamentalement que nous avons besoin, pour changer le système, de convaincre aussi les cadres qui travaillent dans ces entreprises, parce qu'on aura aussi besoin d'eux, et on a aussi besoin de relais, d'appui et de soutien à ces postes de responsabilité-là, en plus de tout ce qu'on peut faire dans le milieu plus ouvrier au sens large du terme.
Et donc, par la suite, vous entrez dans un mouvement qui s'appelle Utopia. Je voulais savoir qu'est-ce que vous y trouvez dans ce mouvement ?
Alors moi, le grand intérêt que j'ai trouvé à Utopia, c'est que d'abord, c'est un mouvement qui est transparti. Donc dans Utopia, il y a des personnes qui sont engagées, mais qui sont engagées de plein de manières différentes. Il y en a qui sont dans des partis, au parti de gauche, au parti socialiste, chez Europe Écologie Les Verts. Et puis, il y en a qui ne sont pas encartés dans un parti, mais qui ont des activités associatives ou syndicales. Donc déjà, ça fait un brassage qui est intéressant. Et puis la deuxième chose, moi, qui m'a beaucoup servi, c'est que c'est à Utopia, moi, que je me suis formée politiquement, idéologiquement, beaucoup par l'échange, le débat, la construction collective. Et j'ai eu la possibilité de le faire dans ce lieu qui est un lieu où il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, parce que ce n'est pas un parti politique, parce qu'il n'y a pas de candidat qui se présente aux élections. C'est un lieu qui est préservé de ses coulisses, de la vie politique des partis, qui n'est pas forcément l'aspect le plus réjouissant de l'engagement politique, et du coup qui m'a permis, moi, de grandir, entre guillemets, politiquement, un peu à l'abri de ces enjeux-là, et donc en me concentrant plutôt sur le fond et sur le contenu que sur la forme et les négociations électorales.
Ensuite, vous êtes entré au parti de gauche en 2008.
Alors avant ça, j'ai fait un petit passage par le parti socialiste au moment du congrès de Reims, où je suis entré justement pour défendre la motion Utopia, qui est représentée par un petit courant du parti socialiste. Donc voilà, j'ai fait un passage éclair au parti socialiste, le temps de défendre la motion Utopia, avant de le quitter effectivement au moment de la création du parti de gauche. Je le précise parce que là aussi, c'est intéressant de voir le Parti Socialiste fonctionner de l'intérieur. Moi, j'ai été porte-parole nationale avec Franck Pupuna de cette motion. Et j'ai donc assisté aux réunions hebdomadaires à Solferino autour du congrès. J'étais aussi à Solferino le soir des résultats du vote sur les motions. Et c'est également là assez lourd d'apprentissage et d'enseignement.
Eh bien, allons-y un petit peu. Est-ce que vous pouvez détailler cette différence et pourquoi vous faites partie de ces gens qui ont rallié le Front de Gauche, le Parti de Gauche, un peu en opposition quand même au Parti Socialiste ?
Alors, c'est pas tant en opposition au Parti socialiste qu'en opposition à l'hégémonie du Parti socialiste à représenter la gauche. C'est-à-dire que voilà, nous, on a créé le Parti de gauche en partant du constat que le Parti socialiste avait définitivement sombré dans une dérive sociolibérale. C'était le cas notamment avec les velléités d'alliance avec le Modem, qui pour nous reste un parti de droite, et puis avec un certain nombre d'orientations, d'accompagnement du système. Partant de ce constat-là, on s'est dit qu'il y avait besoin à gauche d'une autre force qui puisse représenter une vraie alternative à gauche. Notre objectif, effectivement, depuis le début, il est très clair, hein. Il est double. Il est d'abord, évidemment, de battre la droite, mais il est aussi de passer pour cela devant le Parti socialiste et de faire en sorte qu'à gauche, il n'y ait pas que ce choix-là lorsque l'on parle, justement, d'accéder au second tour ou de battre la droite. Voilà, c'est une de nos boussoles politiques pour mettre en œuvre le projet du Parti de gauche et celui du Front de gauche. Et puis du coup, c'est vrai que moi, mon passage par le Parti socialiste m'a achevé, on va dire, de me convaincre que là, pour le coup, c'était pas de l'intérieur que j'étais le plus utile pour faire bouger les choses, mais que je serais plus efficace à l'extérieur. Et donc, j'ai rejoint dès la création du PG Jean-Luc Mélenchon, au moment où il a appelé, lui, les écologistes à le rejoindre. J'étais à ce moment-là dans les milieux de l'objection de croissance, de l'écologie radicale, de l'écologie politique. Et donc, j'ai répondu à cet appel qui disait en substance, de la part de Jean-Luc Mélenchon et des autres fondateurs du Parti de gauche, ce message, c'était de dire, voilà, nous venons d'une gauche dont la tradition n'est pas celle de l'écologie politique, mais nous avons pris conscience de l'importance de prendre en compte cette dimension écologique. Venez nous aider, venez nous apporter les arguments, les codes, les références de l'écologie politique pour qu'on puisse les intégrer à notre projet. Et c'est donc ce qu'on a fait.
Je vais juste poursuivre un tout petit peu sur cette création du Parti de gauche et sur le fait que nous n'avons pas, en tout cas sur la troisième circonscription de la Drôme, de candidature unitaire, en faut-il une, sur la gauche du PS, et qu'il n'y a pas fondamentalement de différence, en tout cas dans votre questionnement par rapport au système capitaliste, que le NPA par exemple, et qu'il n'y a toujours pas d'association non plus. Vous venez d'évoquer l'écologie, quid d'une association avec Écologie Les Verts. Comment se fait-il qu'on se retrouve encore avec 10 candidats, dont je ne sais pas combien de gauche sur notre circonscription?
Alors, c'est une question cruciale qui amène plusieurs réponses. D'abord, la première, c'est que nous avons commencé quand même à faire un rassemblement, puisque je rappelle que le Front de gauche, c'est 7 organisations différentes. On parle beaucoup du Parti communiste français et du Parti de gauche, mais il y en a plein d'autres. Il y a notamment la FAS, la Fédération pour une alternative sociale et écologique. Il y a la gauche unitaire, qui est un des courants issus justement du NPA, et bien d'autres, notamment le PCOF, qui est également un petit peu représenté sur notre circonscription. Donc déjà, il y a un premier rassemblement quand même qui s'est fait et qui n'est pas marginal autour du Front de gauche. Ensuite, c'est clair qu'on aurait souhaité que ce rassemblement-là puisse se faire de manière plus large. Au niveau national, ça n'a pas été possible. Moi, j'ai fait partie des discussions unitaires nationales avec le NPA notamment. Donc, j'ai suivi tout ça de manière très, très attentive. Bon, ça n'a pas été possible avec le NPA qui, au niveau national, a choisi une stratégie plus isolationniste. Et voilà, on a des divergences par rapport à ça, d'approche stratégique. Même si on a effectivement beaucoup de choses qu'on partage en termes de contenu et qu'on est très souvent ensemble en termes de lutte et de résistance sur le terrain. Par rapport à Europe Écologie Les Verts, il y a eu à un moment donné, là aussi, une rencontre nationale à laquelle j'étais à la chocolaterie avec Cécile Duflot et un certain nombre de dirigeants. Là, le rassemblement n'a pas été possible non plus. Alors, sur une question de stratégie qui est que Europe Écologie Les Verts a fait le choix de s'associer avec le Parti Socialiste, qui était l'autre possibilité. Moi, je pense que c'est une erreur politique et que c'est dommage pour tout le monde, mais c'est leur choix. Et puis, des divergences aussi quand même en termes de contenu et en termes de fond. Je pense notamment à un point qui est le rapport à l'Union européenne. Nous avons, nous, au Front de gauche, un rapport très critique à la construction libérale actuelle de l'Union européenne. Nous sommes restés fidèles au nom de la population française au traité constitutionnel européen en 2005 et nous continuons à dire que le traité de Lisbonne et le traité actuel de fonctionnement de l'Union européenne ne vont pas dans le sens de l'Europe des peuples et de l'intérêt général et des propositions que nous portons. Donc ça fait quand même une divergence parmi d'autres, mais celle-ci est importante. Après, localement, on s'est dit à un moment donné, voilà, puisque au national, les directions de nos partis ne sont pas capables de se mettre d'accord et de se mettre ensemble, voyons s'il est possible, nous, à notre échelle, notamment sur la troisième circonscription, de le faire. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que sur la troisième circonscription, beaucoup de militants du NPA sont plutôt issus des courants unitaires du NPA. Je pense notamment à la gauche anticapitaliste dont nous sommes très proches. Et puis que de la même manière, parmi les militants d'Europe Écologie Les Verts, on est plutôt là aussi sur la gauche des Verts, plus proche de la motion Envie. Donc on a naturellement plus de convergence ici sur la troisième circonscription de la Drôme. Et puis le fait que moi-même je sois candidate du Front de Gauche avec ma responsabilité sur l'écologie au niveau national et mes centres d'intérêt et de militantisme fait que voilà, on s'était dit que ça devait être possible d'arriver à quelque chose. Donc nous avons eu des discussions avant le début de la campagne qui sont allés assez loin, hein, puisqu'on s'est réunis pendant pas mal de temps pour discuter de programmes, de possibilités. Ça nous a permis de mieux nous connaître. Je pense que de toute manière, voilà, ces phases-là, elles ne sont jamais perdues, mais nous n'avons pas réussi à aboutir et à aller jusqu'à une candidature unitaire pour plein de raisons différentes. Et donc, nous nous sommes retrouvés effectivement de ce côté-là avec trois candidatures différentes, avec quand même une satisfaction en ce qui me concerne, hein, c'est que c'est trois candidatures qui sont portées par des femmes, d'abord. Et je trouve que c'est important quand on voit la sous-représentation des femmes à l'Assemblée nationale. Et voilà, avec, je pense, effectivement, pas mal de points communs entre nous trois, entre Mireille Berthaud, Delphine Petit et moi-même. On a continué malgré tout à essayer de réfléchir à la manière dont on pouvait se rejoindre. Pour tout vous dire, on y pense encore, hein, même si maintenant voilà, les candidatures sont déposées et il est établi que les trois candidatures seront présentes au premier tour. Moi, je continue à penser qu'il est possible de se retrouver, par exemple, au second tour, sur une candidature commune, c'est-à-dire sur le fait que celle de nous trois qui arrive en tête et qui a la possibilité de se maintenir au second tour bah, puisse avoir le soutien des deux autres. Je pense que voilà, ça serait une bonne manière de continuer à progresser sur cette recherche d'unité.
Et puis, je voulais une petite parenthèse, c'est par rapport à André Gorz. Apparemment, c'est une personnalité qui vous a beaucoup influencé.
Oui, tout à fait.
Parlez-nous-en par rapport à ce qu'il vous a amené dans votre carrière politique.
Ouais, j'aime pas trop qu'on parle de carrière politique, mais pour revenir à André Gorz, ça me plaît plus. Ce qui m'intéresse, moi, dans le parcours d'André Gorz, il a eu un parcours politique qui n'a pas été linéaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu un vrai cheminement personnel, non dogmatique, qui, dans la fin de sa vie, est revenu sur certaines des idées qu'il avait au début de sa vie et qui a vraiment réussi à avoir une progression qui ne soit pas un chemin bordé d'ornières dans une tranchée toute tracée. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, évidemment, c'est un des grands penseurs de l'écologie politique. Moi, je crois que si aujourd'hui, on arrive à faire naître cette gauche rouge et verte qui marie la question écologique et la question sociale, qui arrive à allier à la fois le meilleur de toutes les traditions de la gauche, c'est-à-dire à la fois tous les acquis du mouvement ouvrier, du marxisme, du communisme, du socialisme, mais aussi de l'écologie, du féminisme, du pacifisme, des courants anarchiques et révolutionnaires. Ben, je crois qu'on le doit en partie à André Gorz, qui a lui-même commencé à donner les premières pistes de ces alliances. Et puis sur un registre plus personnel, c'est aussi un homme qui, moi, me touche beaucoup par sa vie, par ses choix personnels et notamment par sa fin de vie, puisque André Gorz a accompagné sa femme dans cette fin de vie en suicidant son couple Sa femme était très gravement malade. Il a écrit d'ailleurs un très très beau texte, Lettre à D, qui est une sorte de testament et d'hommage amoureux à sa femme qui l'a aidé toute sa vie et qui n'a pas forcément toujours été payée en retour par le comportement de son mari. Et sa femme étant donc très gravement malade, ils ont fait le choix, et notamment lui qui était valide, de se suicider tous les deux. Et voilà, c'est aussi un aspect qui moi me touche beaucoup, étant particulièrement sensible aussi aux questions de fin de vie et de droit à disposer de son corps et de sa vie librement.
Voilà, bon, pour la partie biographique, je crois qu'on a fait le tour, même si j'ai sauté des choses. On y reviendra peut-être après. Maintenant, les enjeux, donc, c'est... Moi, l'idée, c'était de faire venir les personnalités qui se présentaient aux élections pour parler surtout de l'aspect local, c'est-à-dire du Diwa, et de voir quels enjeux voyaient les candidats au niveau économique et sociaux. Et donc, quelles perspectives prévoyez-vous, pardon ?
Pour le coup, c'est une question large.
Oui, mais on peut si... résumer déjà au niveau social.
Si je dois prioriser, moi je pense qu'il y a deux aspects fondamentaux ici qui sont fondamentaux au niveau national voire international, mais qui sont particulièrement cruciaux dans le Diwa, c'est la question de l'agriculture et la question des services publics. Je pense qu'on est ici dans cette circonscription, dans la vallée de la Drôme et dans le Diwa, dans un lieu particulièrement emblématique parce qu'on a à la fois tout ce qu'il faut pour vivre heureux et en même temps on est dans des zones où on voit particulièrement à quel point l'agriculture intensive productiviste peut provoquer des dégâts et à quel point la disparition des services publics de proximité en zone rurale peut elle aussi provoquer des dégâts. Et c'est pour ça que je me concentrerai si je dois répondre à cette question sur ces deux priorités-là. D'abord, le développement d'une agriculture paysanne. Le fait de développer l'agriculture biologique. Alors, je ne parle pas forcément de manière pointue d'avoir le label EcoCert. On sait qu'ici, il y a beaucoup de paysans, de maraîchers qui sont sur des techniques d'agriculture biologique sans forcément en avoir le label. Ce qui m'importe, moi, avant tout, c'est la pratique, évidemment, plus que le label. Mais d'aller vers cette agriculture paysanne, parce que ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est le développement du libéralisme aussi au niveau agricole, avec des exploitations qui, du coup, devaient être toujours plus grandes pour continuer à être viables économiquement parlant et à ce que concrètement les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Et que maintenant, on se retrouve dans beaucoup d'endroits avec des très grandes exploitations qui du coup ne peuvent plus être transmises parce que concrètement, les jeunes agriculteurs n'ont pas les moyens de se les payer. Et avec des mécanismes institutionnels qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire que concrètement, les possibilités qu'il y aurait de défendre ces terres agricoles ou de les préempter pour pouvoir les louer à des jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer ne sont pas utilisées de manière optimale. Ils pourraient l'être beaucoup plus. Ça, c'est le premier constat. Il se trouve qu'ici, dans la Drôme, on est le premier département en agriculture biologique, à la fois historiquement et puis en termes de... Alors, plus de surface, mais en termes de nombre d'exploitations. Et je pense que c'est un atout hyper important à préserver et voire à développer encore plus. C'est pour ça que moi, quand j'entends Hervé Mariton, le député UMP sortant, qui nous explique, par exemple, que l'installation d'un McDonald's à Cray, c'est une super opportunité pour la ville parce que ça va permettre aux jeunes qui sont au lycée professionnel Armorin en filière restauration de trouver un débouché professionnel, j'hésite entre le rire et les larmes. On est dans le premier département bio de France. Il est évidemment absolument hors de question de se dire que le débouché en restauration, c'est le McDonald's de Cray. C'est faire preuve d'un aveuglement total par rapport aux atouts du département et par rapport à la préservation de ce qui en fait aujourd'hui toute la qualité et qui fait qu'il y a des gens qui viennent s'installer encore dans le Diwa, contrairement à d'autres zones rurales qui sont en voie de désertification dans d'autres départements. Donc ça, c'est la première chose. Et puis du coup, ça me permet de faire le lien aussi avec la question des services publics. Si je prends l'exemple de Die, si la ville de Die est une ville dynamique où il y a des gens qui viennent s'installer, des jeunes, des familles, et qu'il fait bon y vivre, c'est aussi parce qu'il y a une école publique, parce qu'il y a un collège et un lycée, parce qu'il y a une gare SNCF, parce qu'il y a un théâtre, une médiathèque, un cinéma d'arrêt d'essai et un hôpital. C'est aussi pour ça que les gens viennent s'installer. Et on voit bien que partout où de plus en plus disparaissent les bureaux de poste, les tribunaux de proximité, les agences de Pôle emploi, les écoles rurales, et ben c'est des secteurs où petit à petit les gens partent et ne viennent plus s'installer, ce qu'on peut légitimement comprendre. C'est la raison pour laquelle voilà, nous au Front de Gauche on fait du maintien et du développement des services publics, notamment en zone rurale, une priorité. Contrairement à tout ce qui a été fait ces dernières années pour libéraliser ces services publics et aller vers la privatisation de l'éducation, de la santé, de tous ces services d'intérêt général. Et là encore, de la même manière, quand j'entends Hervé Mariton dire qu'il veut aller encore plus loin que Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy avait dit non remplacement d'un fonctionnaire sur deux, Hervé Mariton a dit lui non remplacement de deux fonctionnaires sur trois, il faut bien se rendre compte que ces fonctionnaires dont on parle, c'est des postiers, c'est des cheminots, c'est des enseignants, c'est des infirmières, voilà, c'est toutes ces personnes qui font qu'on peut vivre bien et travailler au pays. Donc il est hors de question de laisser saccager toute cette richesse.
On va être un petit peu pointu puisque à la radio on a été sensibilisé plusieurs fois sur le RASED. Et les écoles par exemple du Haut-d'Iois sont massivement touchées par un retrait des enfants par les parents eux-mêmes vers l'école privée Notre-Dame de Die. Par exemple, je peux citer un certain nombre d'écoles qui aujourd'hui ont cessé leur activité ou sont tellement réduites qu'effectivement il n'y a plus d'ambiance et si on continue encore à les enlever... Y a-t-il une politique là-dessus ? Comment peut-on resensibiliser les gens aussi à ces services publics ? Ou pour parler de l'hôpital aussi, je continue. Nombre de gens dans le secteur préfèrent aller se faire soigner directement à Valence, sachant qu'ici, il y a des problèmes, que peut-être ça va être plus lent. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui sont aussi critiquées par la population, même quand elles veulent encore défendre leurs services publics. Il n'empêche qu'elles les désertent aussi.
Alors d'abord, moi je pense que en ce qui concerne la question de l'éducation nationale, il y a une vraie nécessité de d'abord repenser le projet de l'éducation nationale avant d'avoir une réflexion sur les moyens. C'est-à-dire que évidemment, il y a un problème de moyens. C'est notamment tous les postes d'enseignants qui ont été supprimés et une politique tout à fait délibérée qui a été mise en place par le précédent gouvernement d'orienter justement le public, les usagers vers le privé. J'y reviendrai. Donc il y a un problème de moyens en termes d'adultes dans les établissements, mais il y a aussi un problème de projet. C'est clair, et il ne faut pas se leurrer. Défendre l'éducation nationale, ce n'est pas soutenir mordicus contre l'évidence qu'aujourd'hui, tout va bien pour le meilleur des mondes dans l'école publique. Donc il y a un problème de projet, il y a un problème de réflexion collective à avoir, notamment, et nous c'est notre position au Front de Gauche, pour faire en sorte que l'école redevienne un lieu d'éducation citoyenne et non pas un lieu où on forme les futurs salariés. Voilà, très concrètement, on a aujourd'hui une orientation de l'éducation de manière générale qui vise à faire en sorte que les élèves acquièrent des compétences qui vont être directement commercialisables sur le marché du travail. Nous pensons, nous, que l'école doit former de futurs citoyens et des esprits critiques et qu'ensuite, il faut qu'on mette en face les moyens adaptés. Et ça, ça passe notamment par des questions d'enseignants, d'encadrement, mais aussi effectivement de RASED. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur le fait de constater comme ça une fuite du public vers le privé, que ce soit en matière d'éducation nationale ou en matière de santé, parce que c'est vrai dans les deux cas. On a une politique délibérée, idéologique, de casse des services publics. Je m'explique, on a comme ça des écoles, des hôpitaux qui sont maintenus ouverts, mais avec des moyens qui vont en s'abaissant. Des moyens financiers, des moyens en termes de humains. on laisse délibérément le service aux usagers se dégrader pour pouvoir à la fin dire en gros, bah, vous voyez bien ce qu'on vous disait, les fonctionnaires c'est des bons à rien, les services publics ça marche pas, le privé c'est beaucoup mieux, donc allez-y. En parallèle avec tout un arsenal législatif et réglementaire qui fait qu'on casse les mécanismes de solidarité, de retraite, de mutuelle au niveau de la santé, etc., etc. On voit bien que tout ça a pour objectif d'arriver au fait que, effectivement, sur la santé par exemple, ce soit ceux qui ont les moyens qui puissent se payer une complémentaire santé et non plus le régime universel de la sécurité sociale, et idem sur l'école, que ce soit ceux qui ont les moyens qui aillent dans le privé pendant que les autres resteront à l'école publique. C'est évidemment pas notre choix, et nous ce que nous disons c'est que il y a des priorités budgétaires à réorienter et des moyens à reventiler pour faire en sorte que ces services publics, hôpitaux comme écoles, puissent assurer un service de qualité à l'ensemble des citoyens.
Et concrètement, ça se passe comment? Je veux dire, là, on a l'hôpital de Nyons qui est menacé, celui de Die, celui de Cré qui a été réduit comme peau de chagrin. Quels peuvent être, admettons, vous êtes élu, quels peuvent être les moyens, là, localement? Est-ce qu'on va débloquer tout de suite des fonds départementaux, régionaux? Est-ce que l'État va devoir tout de suite se réorienter?
Concrètement, ça passe par plusieurs choses. Ça passe d'abord par l'abrogation de la loi dite Bachelot, qui a mis en place notamment les agences régionales de santé et qui fait que, concrètement, aujourd'hui, l'hôpital est géré comme une entreprise privée, c'est-à-dire avec un objectif d'abord de rentabilité et non plus de services rendus et d'intérêt général. Ça passe par la remise en cause aussi de la tarification à l'acte, la T2A, qui fait qu'on privilégie les opérations là aussi rentables et pas forcément celles dont on a besoin, c'est-à-dire de revenir à une logique des besoins, c'est-à-dire de partir des besoins de la population pour y répondre. Ça, c'est la première chose, c'est une réorientation générale, on va dire, pour faire en sorte que, par exemple, à la tête des établissements de soins, ce soit des professionnels de la santé qui soient là et non pas des gestionnaires qui cherchent à rentabiliser l'établissement. Et puis ensuite, il y a la question, effectivement, des moyens, de reventiler tout simplement les moyens. Ça veut dire que quand on engage des fonds publics, on les engage vers le public et non pas vers le privé. Ça, c'est déjà ce qu'on fait, nous, au groupe Front de Gauche, à la région. C'est-à-dire qu'on part du principe que les aides publiques de la région, c'est-à-dire notre argent à nous tous, il aille au public et non pas, par exemple, à des lycées privés.
Ce qui va du coup faire augmenter leurs frais d'inscription et donc peut-être que les gens vont ressortir, c'est ça ?
Du privé ?
Oui, par exemple, non, pour reprendre localement l'école Notre-Dame, c'est absolument pas cher du tout pour personne d'y aller. Ça veut dire qu'elle a beaucoup d'aide.
Non, l'objectif n'est pas d'augmenter les frais d'inscription dans le privé. L'objectif est de faire en sorte que l'école publique soit à nouveau en mesure d'accueillir tous les enfants et de les accueillir bien et d'assurer leur éducation à l'école et que l'école publique puisse rester gratuite, laïque et obligatoire pour l'ensemble des gamins.
Non, mais ce que je constate pour parler de l'école Notre-Dame à Die, c'est que les frais d'inscription ou les frais de scolarité qui incombent aux parents, puisqu'on est dans une situation d'école privée, sont ridicules. Ça veut bien dire que l'école Notre-Dame est grassement aidée.
Moi, je sais pas, j'ai pas accès au compte de l'école de Notre-Dame, donc je sais pas quelle est précisément la ventilation. Ce que je sais par contre, c'est que moi je suis extrêmement attachée au fait que l'argent public aille au public, et mon objectif une fois de plus n'est pas tant de dissuader les parents d'inscrire leur gamin à Notre-Dame ou dans d'autres établissements privés que de faire en sorte qu'ils aient à nouveau envie d'inscrire leurs enfants à l'école publique.
Par rapport à l'hôpital,
par rapport à l'hôpital, je voudrais juste quand même ajouter une chose, puisque là en plus ça s'inscrit dans l'actualité, notamment du nouveau gouvernement de François Hollande. La ministre en charge des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine, a réaffirmé son engagement de tenir une des promesses de campagne de François Hollande, et puis une obligation normalement légale, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de patient à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. Voilà, c'est intéressant pour nous à rappeler aussi, même si ça ne va pas s'en poser de problème, parce que si on prend le cas du Diwa et du département de la Drôme, ça veut dire certes le maintien des services d'urgence à l'hôpital de Die, mais ça veut dire aussi qu'il faudrait construire un service d'urgence à la Motte-Chalancon, par exemple. Et là, pour le coup, je leur souhaite bien du courage.
Mais ça répond un peu à la question que je voulais poser. Par, rapport aussi à la SNCF, vous comptez faire quoi localement? Parce que je crois que depuis quelques années, la SNCF a une politique de restriction, de réduction même de réseaux ferrés. Je voulais savoir votre opinion dessus.
Alors le cas de la SNCF est aussi un cas d'école. À quoi on assiste aujourd'hui? La SNCF a été créé à un moment donné en France parce que concrètement il y avait plein de compagnies différentes et donc beaucoup de difficultés à coordonner tout ça à l'échelle nationale. Donc on a créé la SNCF de manière unifiée. Et puis est arrivée l'Union européenne et un certain nombre de directives qu'on a appelées paquet de libéralisation ferroviaire qui ont été votées d'ailleurs au Parlement européen par un certain nombre de députés européens socialistes et même des Verts qui en gros dit voilà, la SNCF telle qu'elle existait encore il n'y a pas si longtemps en France représente un monopole sur le marché du rail. Ça c'est incompatible avec le mythe de la concurrence libre et non faussée en Europe, donc maintenant injonction vis-à-vis de la France, d'ouvrir le rail à la concurrence. Et donc on est en train d'assister à cette ouverture à la concurrence et à cette privatisation du rail. Donc la SNCF a été séparée en deux entités distinctes, une entité qui s'occupe des infrastructures et puis une entité qui est une entité, on va dire, plutôt de commercialisation des voyages. La conséquence de ça, c'est que concrètement, si on prend notre cas, moi je suis membre du comité de ligne qui fait Valence-Luc-Andillois. Donc je connais bien aussi cette question-là. Puis il y a eu un combat aussi important de la part de la population sur Luc-Andillois pour conserver la halte voyageur. La conséquence de ça, c'est que concrètement, d'un point de vue purement économique, avoir des gares comme celle de Luc-Andillois par exemple, ou d'autres sur le trajet, où il n'y a pas beaucoup de flux, pas beaucoup de voyageurs qui montent et qui descendent à chaque arrêt, n'est pas considéré comme rentable d'un point de vue économique. On sait tous à quel point c'est important, parce que c'est le seul mode de déplacement de beaucoup de personnes, et que d'un point de vue à la fois social, mais aussi environnemental, parce que c'est aussi ça qui permet aux gens parfois de ne pas prendre leur voiture pour se déplacer, on sait à quel point c'est important. Mais si on regarde d'un point de vue purement économique, c'est pas rentable.
J'ai une question là-dessus. La gare de Luc, justement, il n'y a personne dedans.
Il n'y a plus personne.
Donc les gens prennent leur billet soit par internet, soit éventuellement à Die, et prennent le train à Luc. Il y a bien une économie qui est réalisée là. En quoi c'est pas rentable cet arrêt?
Ne serait-ce que parce que l'arrêt prend des minutes de trajet et que le sillon, il est payé par la SNCF. C'est-à-dire que le temps de parcours, le temps de l'arrêt, il coûte à la SNCF. Ça peut paraître dérisoire, mais voilà le type de coûts qui sont pris en compte. Et puis malgré tout, il y a un minimum d'entretien de la gare, etc. Cela dit, le fait par exemple qu'il n'y ait plus d'agents en gare à Luc-Andillois pose énormément de problèmes et la cause d'un certain nombre de dysfonctionnements. Parce que par exemple, le fait qu'il n'y ait plus d'agents fait qu'on ne peut pas utiliser la gare de Luc-Andillois pour faire en sorte que des trains puissent se croiser et que résultat, quand le Paris-Briançon est en retard par exemple, et ça met du retard sur toute la ligne. Voilà le genre de problème totalement absurde où on se dit que ça aurait peut-être été intelligent de garder un agent et de permettre ces croisements de voies plutôt que d'avoir retard sur retard et dysfonctionnement sur dysfonctionnement. C'est la même chose sur l'investissement dans l'équipement à long terme. On fait des économies de bout de chandelle pour ne pas avoir des coûts d'entretien sur le matériel roulant par exemple, qui certes à très court terme peuvent permettre de ne pas dépenser plus d'argent, mais qui, à long terme, provoquent d'autres dysfonctionnements qui, eux, coûtent beaucoup plus d'argent. Mais ça, c'est là, on est typiquement dans la logique capitaliste de faire un maximum de profit dans un minimum de temps, sans voir les choses sur le long terme, sans planifier les choses. C'est pour ça que nous, on a parlé de planification écologique aussi au Front de Gauche. Voilà le genre de problématique qu'on a sur la SNCF. Donc nous, au Front de Gauche, on est pour une SNCF réunifiée, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'abord d'un côté l'investissement, de l'autre côté le commercial, et puis pour faire en sorte de préserver cet outil formidable d'aménagement du territoire, de mobilité et de lien social qu'est la SNCF, contrairement à ce qui est en train d'être fait.
C'est-à-dire un combat frontal avec l'Europe alors?
C'est-à-dire qu'effectivement, on se donne la possibilité de rentrer en désobéissance européenne, c'est-à-dire avec, après consultation de la population par référendum par exemple, de se laisser la possibilité de dire « eh ben non ». Un certain nombre de directives européennes ou d'articles du traité de fonctionnement de l'Union européenne, nous, peuple français, nous décidons de ne pas les appliquer parce que nous estimons que cela va à l'encontre de l'intérêt général et de la politique de transformation écologique et sociale que nous souhaitons mettre en œuvre. Je vais juste prendre un autre exemple par rapport au rail, c'est la question du fret. Donc du transport de marchandises, qui est pour le coup au cœur des enjeux de la transition écologique. Et tout le monde d'ailleurs, en campagne électorale, dit oui, bien sûr, il faut transporter les marchandises par rail plutôt que sur les camions. Sauf que ça, il faut aller jusqu'au bout aussi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fret en France? C'est parce que ces paquets de libéralisation ferroviaire dont j'ai parlé au niveau de l'Union européenne ont déterminé le fait qu'il n'y aurait par exemple plus de wagons isolés en France. Le wagon isolé, c'est quoi? C'est la possibilité qu'avaient avant des entreprises de faire appel à la SNCF pour transporter des marchandises, mais à l'échelle d'un wagon, pas à l'échelle d'un train entier, parce que voilà, il y a plein de PME qui ont besoin de transport de marchandises, mais en quantité petite ou moyenne.
Pour parler concret, la cave de Digeyance ne peut plus se faire fournir son wagon de bouteille au cul du wagon classique, du train classique de voyageurs. Pardon.
Voilà, c'est tout à fait le cas effectivement de la cave ici. C'est le cas aussi de la gare de fret de Porte-les-Valence, qui est pourtant merveilleusement située, puisqu'on a là une plateforme multimodale avec le fleuve, avec l'autoroute et avec la gare de fret, qui est aujourd'hui totalement abandonnée. Donc on a supprimé la politique du wagon isolé parce que ce n'était pas suffisamment rentable d'un point de vue économique. Donc concrètement, on a remis de la marchandise, des rails, vers les camions. Donc nous souhaitons revenir à une politique de wagons isolés et le fait de réunifier la SNCF permettra aussi de faire en sorte que des branches qui au début peuvent être déficitaires, comme le wagon isolé par exemple en lancement d'activité, et ben, puissent être financées par d'autres branches qui elles sont excédentaires.
Justement, j'en viens aussi à cette histoire de déviation surdit. Ce que vous envisagez, moi je vois ça en fait, qu'on discrédite le fret et la SNCF justement pour encourager le transport routier. Donc ça induit aussi peut-être de refonder la circulation au niveau du DIWA.
Alors d'abord, la question de la déviation n'est pas dans notre programme pour les élections législatives, parce que pour le coup on n'est pas sur des élections municipales ou cantonales. Cela dit, ça n'empêche pas d'avoir un avis sur la question, évidemment. Bon, moi, je suis de toute manière opposée à un certain nombre de nouveaux projets routiers, de manière générale, et notamment la relance de beaucoup de tronçons d'autoroutes en France, alors que l'objectif du Grenelle de l'environnement était au contraire de ne pas relancer de nouveaux projets autoroutiers. Ça, c'est déjà pour la position générale. Ensuite, en ce qui concerne la déviation de DIP, bon, d'abord, c'est un vieux serpent de mer qui vraisemblablement ne verra jamais le jour, pour en avoir discuté à la fois avec des citoyens, mais aussi avec des élus du département. On sent qu'il n'y a quand même pas un grand empressement à s'y coller. Et vu les péripéties qu'il y a eu déjà sur ce dossier, je pense qu'il est de toute manière mort-né, on va dire. Ensuite, voilà, à titre personnel, je pense qu'il y a un double objectif à avoir. Le premier, c'est effectivement de réduire le nombre de trajets par camion. Et le deuxième, c'est de préserver le confort de vie, mais aussi la sécurité des habitants de Die. Je ne suis pas sûre que le meilleur moyen de faire ça soit de rajouter une portion de route qui passe à la fois par les jardins du Pierrier et qui traverse la rivière de la Drôme. Je pense que, pour le coup, nous avons besoin, sur cette question-là, d'avoir, une fois de plus, une politique nationale. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas la question tant de la déviation de Die, puisque de toute manière, c'est à échelle de 10 ou 15 ans. À échelle de 10 ou 15 ans, l'objectif premier, ce n'est pas la déviation de Die, c'est le développement du fret et du transport fluvial. Voilà la seule vraie solution au fait d'éradiquer les camions de nos routes.
Et alors, quels sont les enjeux que vous voyez, vous, au niveau du DIWA?
On a quand même déjà évoqué pas mal de choses, là, sur les questions d'agriculture, d'éducation.
Niveau, au niveau culturel, par exemple.
Au niveau culturel, moi, je crois qu'on on nage dans le luxe. Moi, ça me plaît beaucoup, parce que je pense que c'est aussi ce qui fait la richesse du territoire. Et je pense que, voilà... moi, je suis pour le luxe pour tout le monde. Et donc, je pense que le niveau d'animation culturelle, de richesse culturelle qu'on a à dire, que ce soit avec les établissements publics ou privés, moi je pense évidemment au théâtre, au festival Est-Ouest, mais aussi à la médiathèque, mais aussi à la librairie de Die, je pense que voilà, toute cette richesse-là, pour moi ça devrait être la norme partout dans le pays, donc il faut absolument la maintenir. Il y a plein d'initiatives qui continuent à se construire dans le Diois. Il y a des groupements d'employeurs, par exemple, qui se développent. Je pense à La Pelote, a dit qu'il y a un très beau projet de groupement d'employeurs dans le secteur culturel. Il y a plein de petites compagnies, de petites troupes qui cherchent à vivre, à subsister et à se maintenir en activité.
À se loger aussi.
À se loger aussi. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que, et notamment suite au décret Fillon d'il y a quelques mois, c'est que concrètement, les moyens des associations sont de moins en moins importants. Et que ce décret Fillon, il a mis en concurrence les associations avec les officines privées. Je reviens par exemple à l'exemple de l'éducation, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, toutes les boîtes privées de soutien scolaire rentrent en concurrence directe avec les petites associations de bénévolat qui font du soutien scolaire. Et donc ça, plus le fait de réduire les moyens aux associations, on voit bien que c'est toute la vie associative qui est étranglée aujourd'hui. Alors on le voit particulièrement dans le Diois, parce que de fait la vie associative est très importante. Donc c'est d'autant plus visible, mais c'est le cas partout. Donc là aussi, je crois qu'il y a besoin de reconnaître l'apport de la vie associative au bien vivre ensemble, avec quand même une vigilance, et moi j'y suis très attachée, c'est que pour moi, les associations n'ont pas à venir pallier les déficiences de l'État. Et ce qu'on voit aujourd'hui, où concrètement ce sont les Restaurants du Cœur, les Compagnons d'Emmaüs, les associations humanitaires qui se retrouvent à prendre le relais de la solidarité qui normalement fait partie des domaines de compétences de l'État, parce que l'État est censé être le garant de la solidarité au niveau national. Ça, par exemple, pour moi, c'est pas acceptable. Et quand je vois un certain nombre de nos dirigeants politiques aller faire les fanfarons, la main sur le cœur aux événements, pardon, de galas, des Restaurants du Cœur et autres, alors que c'est eux qui ont mis en place des politiques de casse sociale qui font qu'il y a aujourd'hui des gens qui travaillent, qui ont un boulot et qui pourtant se retrouvent à dormir dans leur voiture. Voilà le genre de choses qui me révoltent et qui me donnent envie de me présenter et d'aller à l'Assemblée nationale.
Localement, par exemple, la Croix-Rouge qui gère le centre l'ESAT de Recoubeau-Jansac, donc pour l'accueil et le bien-vivre des personnes atteintes de handicap, deviendrait un service public ?
Je ne suis pas en train de dire que tout doit revenir dans le giron de l'État et des services publics. Je pense que les associations ont un rôle à jouer qui n'est pas le même que celui de l'État. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui un certain nombre de choses qui sont assurées par des associations qui devraient être prises en charge par un service public. Alors après, ça peut se faire de différentes manières. Ça peut se faire par le biais de services d'État. Ça peut aussi se faire par le biais de délégations de missions de service public, mais des vrais, pas comme ce qu'on fait actuellement où on fait des délégations de service public pour les filer au privé. Des délégations de service public pour faire en sorte que ce soit des associations, parce qu'elles sont au plus proche du terrain, parce qu'elles sont une liberté et une marge de manœuvre plus importante, ne me choque absolument pas.
Juste encore un petit mot, on a évoqué la vie associative et la culture. Est-il possible de penser qu'un jour, on arrête d'associer systématiquement la vie associative avec la culture ? Par exemple, nous, en tant que radio, eh bien, on est considéré comme une activité culturelle, alors, et puis qu'on peut aussi être touché par les politiques d'économie sociale et solidaire, comme d'autres associations, comme Est-Ouest aussi, puisqu'elle produit de la culture, mais en réalité, c'est une entreprise locale.
Mais là, pour le coup, c'est peut-être vous qui avez une vision très restrictive de la culture aussi. Parce qu'on peut aussi choisir de mettre sous le terme de culture tout ce que vous citez là, c'est-à-dire à la fois l'économie sociale et solidaire et l'aspect... on va dire artistico-culturel. Moi, après, sur les dénominations, moi, je fais partie de toute manière des personnes qui ont une acception assez large de la culture. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans, y compris du côté des questions d'éducation. Moi, ce qui m'intéresse dans l'activité associative, hein, c'est qu'elle produise de la démocratie, c'est qu'elle produise de l'éducation populaire, c'est qu'elle produise des emplois de qualité et c'est qu'elle produise de l'animation et du développement local. Après, qu'on appelle ça culture ou économie sociale et solidaire, ça va, les deux mots me vont bien.
Là, je vais faire un grand saut. Tout à l'heure, vous parliez du fer de lance, de l'écologie par rapport à la Drôme, au niveau de l'agriculture. Est-ce que c'est compatible avec les centrales qui sont sur la Drôme actuellement, les centrales nucléaires ?
Alors, sur la question du nucléaire, moi, je suis militante anti-nucléaire depuis pas mal d'années, avant même la création du parti de gauche, d'ailleurs. Il se trouve que, la question du nucléaire, d'abord, moi, je pense qu'elle ne peut pas être abordée toute seule. Je pense qu'on a besoin d'avoir un vrai débat, enfin sérieux, sur les questions d'énergie et de transition énergétique. Au parti de gauche, on s'est prononcé pour la sortie du nucléaire depuis la création du parti, et notamment sur un scénario de transition énergétique qui est largement inspiré du scénario Négawatt et qui se base sur trois leviers. La question d'abord de la sobriété énergétique, c'est-à-dire réduire nos consommations, la question de l'efficacité énergétique, qui est moins de déperdition d'énergie, et puis la question des énergies renouvelables pour ce qu'il reste en termes de besoins de consommation. Donc voilà, moi, mon point de départ, il est celui-là. Ensuite, ça fait des années que je débat sur ces questions-là un peu partout dans le pays et puis avec beaucoup d'acteurs différents, que ce soit les syndicats des travailleurs du nucléaire, que ce soit les associations environnementales, que ce soit les camarades d'autres partis de gauche et écologistes. Et force est de constater que ce débat-là sur la sortie du nucléaire, c'est un débat qui est compliqué. Quand je dis compliqué, je ne parle pas techniquement, parce que moi je pense que c'est un débat politique avant d'être technique, et que la technique suivra. Elle a suivi quand la décision a été prise de se lancer dans le nucléaire, elle suivra si la décision est prise d'en sortir, je n'ai aucun doute là-dessus, nous avons toutes les compétences qu'il faut pour le faire. Mais on a un vrai débat politique de choix de société, culturel, à mener, qui est compliqué à mener aujourd'hui. Pour quelles raisons ? D'abord parce que ça fait plusieurs décennies que nous sommes dans un système du tout nucléaire, avec des moyens très importants qui ont été mis, y compris en termes d'idéologie et de culture dominante pro-nucléaire, et que c'est pas si simple d'en sortir pour avoir un débat sérieux et argumenté. Ensuite, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites sur ce débat-là, j'en fais partie, donc je me jette aussi la pierre quand je dis ça, qui ont braqué de part et d'autre. Et on a l'impression maintenant qu'il y a un camp pour le nucléaire, un camp contre le nucléaire, ce qui est très loin d'être la réalité. Moi, pour avoir eu énormément d'entretiens sur le terrain avec plein d'acteurs différents, je sais que la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça et qu'il ne faut pas caricaturer les positions des uns et des autres. Donc, ce que nous disons aujourd'hui au Front de Gauche, c'est quoi ? C'est que d'abord, il y a nécessité de penser l'énergie dans sa globalité et d'avoir une transition énergétique. Qu'ensuite, nous avons besoin d'avoir un débat public sur cette question. Il n'y a jamais eu de débat public en France sur la question de l'énergie et sur la question du nucléaire. Et puis, enfin, que ce choix-là, il est tellement important pour la suite et il implique tellement chacun, chacune d'entre nous, que nous devons mettre enfin en place un système de référendum pour que ce soit chacun d'entre nous qui prenne la décision et que cette décision, elle soit pas prise sur un coin de table entre deux appareils politiques à l'occasion d'un accord électoral. Voilà, concrètement, c'est à chacun d'entre nous de pouvoir s'exprimer. En attendant, les centrales, elles existent aujourd'hui. Il y a des hommes et des femmes qui vivent autour, il y a des hommes et des femmes qui y travaillent, et la première des priorités, c'est de les sécuriser au maximum de ce qu'il est possible. Or aujourd'hui, là aussi, on assiste à l'ouverture à la concurrence d'EDF, à sa privatisation dans des logiques de rentabilité, et donc à des risques qui sont pris aujourd'hui dans la gestion de ces centrales au nom de la recherche de profit et donc de la minimisation des coûts. Moi, je travaille beaucoup avec les syndicats des travailleurs du nucléaire, notamment beaucoup avec des représentants de la sous-traitance dans le nucléaire qui aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme en disant on est en train de raboter sur la sécurité, sur les procédures, sur les conditions de travail, sur la formation et sur la santé des travailleurs pour cette recherche de profit. Donc la première chose, c'est de revenir à un pôle public de l'énergie pour qu'on ait la maîtrise collective de ce qui se passe dans ces centrales et des risques qu'on fait prendre à la fois aux travailleurs et aux riverains. Voilà, ça je pense que c'est extrêmement important et qu'il faut le redire parce que là aussi, on touche directement à la question du service public de l'énergie, à la question des directives européennes, et puis à des choses quand même très concrètes. On habite tous en France près d'une centrale nucléaire. Et ici, évidemment, dans la Drôme, on est encore plus en proximité puisqu'on est dans une des zones les plus nucléarisées de France. On va organiser d'ailleurs un débat le 3 juin à Saint-Paul-Trois-Châteaux qui s'intitulera « Nucléaire, travail en danger » et qui permettra d'aborder toutes ces questions-là, mais aussi les questions d'emploi, parce qu'on sait que c'est un des arguments qui est souvent avancé sur la question de la défense du nucléaire, alors qu'en réalité, la sortie progressive du nucléaire peut permettre non seulement de maintenir les emplois du nucléaire, mais même de créer d'autres emplois localement.
Les alternances d'énergie renouvelable puissent remplacer dans sa totalité le nucléaire?
Non. Les énergies renouvelables ne remplaceront pas le nucléaire.
D'accord, au niveau de production, je parle. Hein.
En termes de production.
Voilà. Et donc, ça veut dire que ça impliquerait aussi une révolution au niveau des mentalités des gens en France, celle de la consommation d'électricité.
Les énergies renouvelables ne remplaceront pas la totalité du nucléaire. De même manière qu'elles ne remplaceront pas la totalité du pétrole, qui va commencer à se raréfier et qui sera de moins en moins bon marché et accessible. De la même manière qu'elles ne remplaceront pas non plus les gisements de gaz et huile de schiste que nous refusons de voir exploiter sur notre territoire. Et ceux qui disent ça mentent. Voilà, et entretiennent les gens dans l'illusion. Ça, c'est la première chose. D'où les deux premiers volets du scénario de transition énergétique qui concernent la réduction des consommations. Alors certes, il y a besoin d'avoir des changements de mentalité, comme vous dites, et de comportement individuel. C'est certain. Sauf que ça ne suffira pas non plus. Ce qu'il faut, c'est un changement en profondeur de nos modes de production, de nos modes de consommation, mais qui soit aussi encadré par la loi. Aujourd'hui, les plus gros consommateurs d'énergie, ce n'est pas les ménages et les individuels. C'est l'industrie, c'est l'agriculture, c'est le transport,
le
logement.
Le commerce.
Le commerce, notamment en termes de transport de marchandises et de flux de marchandises.
Mais on pense aussi à toute notre zone artisanale illuminée 24 heures sur 24.
Tout à fait. Par exemple, voilà de gros gaspillages d'énergie. Moi, je prends un exemple que j'aime bien parce qu'il est symbolique, mais il est juste. C'est les écrans de publicité lumineux qu'il y a à Paris. À quoi ça sert? Quelle est l'utilité sociale d'avoir un écran de publicité lumineux à Paris dans le métro, quoi? Donc voilà des exemples d'économies qu'on peut réaliser très rapidement. Ça pose aucun problème technique et ça cause aucun problème social. Donc il y a des changements de mentalité, mais il y a aussi un encadrement par la loi à avoir et des changements de mode de production. On parlait tout à l'heure du fret, du transport de marchandises. On peut parler aussi de la question de la rénovation thermique des logements. Il y a aujourd'hui beaucoup de logements qui datent d'avant 75 et d'avant le choc pétrolier qui sont de vraies passoires énergétiques et qu'en plus on a pris soin d'équiper avec des radiateurs électriques, ce qui est une aberration totale d'un point de vue à la fois énergétique mais aussi financier pour les gens qui y vivent. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça à réorienter et beaucoup d'investissements publics à avoir pour aller dans le sens des réductions de nos consommations, et ça c'est la première étape. Et ensuite les énergies renouvelables, elles arrivent dans un deuxième temps pour compenser pour fournir l'énergie qu'il reste en termes de besoins. Parce que l'objectif, ce n'est pas non plus ni de revenir à la bougie, ni de revenir au char à bœufs, ni de mourir de froid dans son logement, évidemment. Donc les énergies renouvelables, elles arrivent, mais uniquement à ce moment-là. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une frange des mouvements dits écologistes qui, en gros, dès qu'il y a marqué énergie renouvelable, signe des deux mains. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des énergies renouvelables qui sont pourries. Quand on regarde le projet Desertec au Sahara, par exemple, qui consiste à mettre sur des milliers de kilomètres carrés des panneaux solaires en plein désert du Sahara pour alimenter notre surconsommation énergétique à nous, pays européens, moi, je ne suis pas d'accord, même s'il y a énergie renouvelable dans la phrase. Donc, il faut regarder ça très attentivement. Et ensuite, par rapport aux énergies renouvelables, il y a un maître mot qui est la question de la diversification. C'est-à-dire que ce ne sera pas du tout éolien, ce ne sera pas du tout solaire. Il y a plein d'autres sources d'énergie renouvelable qui sont aujourd'hui insuffisamment développées en France. On a beaucoup parlé avec Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle de la géothermie profonde, qui est une des possibilités, mais il y en a plein d'autres. Il y a tout ce qui est micro-hydraulique. Je dis micro parce que plus on est sur de petites sources de production, plus on peut être dans des choses associatives, citoyennes, collectives, au plus près du local.
Et moins on fait des catastrophes écologiques avec des lacs immenses.
Voilà. Et je voulais venir aussi sur le projet de Romeyé, qui consisterait à construire une picocentrale et qui produirait une électricité qui pourrait suffire pour Romeyé même, avec un léger excédent.
Oui, et puis, on peut prendre un autre exemple qui est en plus la première implantation d'Enercop dans le Diwa, qui est la microcentrale hydraulique qui existe à Lucan-Diwa. Ça, la seule chose que je regrette par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, ce soit Enercop qui le fasse et que ce ne soit pas EDF. Voilà. Moi, mon objectif en matière de production énergétique, c'est que EDF fonctionne à terme comme Enercop, c'est-à-dire que ce soit une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, où on peut mettre autour de la table aussi bien les fournisseurs d'électricité que les collectivités territoriales, que les usagers, parce qu'en général, on est plus intelligent à plusieurs et que chacun doit pouvoir avoir son mot à dire là-dessus. Et puis, effectivement, sur des énergies renouvelables, comme c'est le cas sur les exemples qu'on vient de citer.
Un mot sur BioValley, la grande marque.
Sur BioValley, moi, j'applaudis le principe des deux mains, c'est-à-dire que le principe de faire de la vallée de la Drôme une vitrine et un laboratoire en matière d'écologie me paraît excellente. Voilà. Parce qu'en plus, je pense que, une fois de plus, nous avons tout ici pour faire un territoire d'excellence d'un point de vue écologique. Nous avons les capacités d'avoir de la souveraineté alimentaire, d'avoir de la souveraineté énergétique. Voilà, on a une richesse incroyable en termes de ressources. Et en plus, c'est un territoire qui est déjà au départ très préservé. La rivière de la Drôme, c'est la dernière rivière sauvage de France. Les atouts, ils sont là et il faut qu'on les mette encore plus en valeur et qu'on les mette en réseau pour faire un laboratoire. Donc le principe me paraît excellent. Après, moi je reste très vigilante aussi sur la manière dont les choses se déroulent. Pour l'instant, je constate qu'il y a quand même beaucoup d'ateliers participatifs, beaucoup de consultations qui s'organisent, avec parfois peut-être une information qui n'arrive pas toujours jusqu'aux bonnes personnes. Mais en tout cas, il y a une vraie consultation citoyenne sur ce projet-là pour ceux qui souhaitent s'en emparer. Il y a des initiatives intéressantes, donc c'est un projet à suivre de près.
C'est par rapport à Jack London, est-ce que vous vous y retrouvez ici dans ce paysage du Diwa ?
J'aimerais bien m'y retrouver plus et avoir plus le temps de profiter de ces paysages de manière solitaire pour retrouver l'esprit de Jack London.
Je pense pas que ce soit difficile de se retrouver solitaire ici pour se promener dans la nature.
Non, c'est beaucoup une question en ce qui me concerne de temps et de disponibilité malheureusement.
Et je voulais savoir, vous avez amené un livre, c'est quoi au juste ce livre ?
Oui, merci de me poser la question. Je l'ai sorti pour penser à en parler et j'ai totalement oublié. C'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Nos colères fleuriront ». Le sous-titre, c'est « Arracher les mauvaises herbes du capitalisme vert ». C'est le premier tome. Il y a un deuxième tome qui est en cours d'édition. C'est un petit bouquin qui est paru chez Bruno Le Prince et qui est un livre que j'ai souhaité publier pour à la fois me présenter. Donc il y a une forme de biographie politique très modeste. Et puis pour aussi à la fois rendre compte de mon mandat de conseillère régionale auprès des électeurs. Et puis de présenter les idées que je défends, les convictions que je porte de manière un peu sympa et accessible. C'est-à-dire que j'avais pas envie de faire un bouquin trop sérieux, très fouillé, très documenté, très satisfaisant pour l'auteur, mais qu'au final personne n'aurait envie de lire. Donc j'ai choisi délibérément de faire un petit format accessible, il est pas cher, il est à 6 €, et puis avec une écriture plus de type blog, puisque j'ai un blog aussi sur lequel j'écris beaucoup, de manière à ce que ce soit lisible par tout le monde et pas uniquement par ceux qui sont déjà convaincus, déjà militants et déjà dans ces cercles-là, mais de toucher un public plus large. Voilà, c'est aussi un autre mode de communication et d'échange. Donc j'essaye de faire des rencontres dédicaces dans différentes librairies de la Drôme et d'ailleurs en France pour une fois de plus, toucher d'autres personnes et engager le dialogue avec des gens qui ne viendraient pas forcément à des meetings de partis politiques. Je pense qu'il faut varier les supports, varier les occasions de dialogue et d'échange. Et pour moi, c'est aussi un outil de diffusion d'un certain nombre d'idées, de convictions et pour entamer l'échange.
Corinne Morel-Darleux, vous êtes candidate donc sur la 3e circonscription de la Drôme pour le Front de Gauche. En une phrase, pour qu'on vote pour vous ?
Eh bah, bien, au premier tour, parce que au vu des résultats de la présidentielle, nous avons une opportunité historique de passer en tête de la gauche au premier tour de ces élections législatives et de faire la démonstration qu'il y a une alternative possible par rapport au Parti Socialiste. Et puis au deuxième tour, parce que nous avons un objectif tout à fait plaisant à remporter ensemble, qui est de bouter M. Hervé Mariton hors de son siège de l'Assemblée nationale pour faire en sorte que plus jamais on ne puisse faire en notre nom à l'Assemblée nationale la politique du pire, de la peur et de la rigueur.
Question annexe, si le Front de Gauche arrive majoritaire aux législatives, il y aura donc une cohabitation étonnante.
Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment parler de cohabitation, parce que nous ne considérons pas au niveau de l'Assemblée nationale que nous serions dans l'opposition avec l'UMP et le Front National. Très clairement, nous ne voterons pas, par exemple, de motion de censure avec la droite vis-à-vis de Hollande. Nous, notre position par rapport au gouvernement, qu'on soit majoritaire ou pas d'ailleurs, elle sera une position d'autonomie. Nous n'aurons pas, comme à la région, nous n'avons pas de contrat de mandature, nous gardons notre liberté de vote. Quand les choses iront dans le bon sens, nous les appuierons et le gouvernement pourra compter sur le soutien des élus du Front de Gauche. Et quand elles iront dans le mauvais sens, eh ben on le dira aussi. Donc voilà, on fera partie, je ne sais pas comment on peut dire ça, d'une majorité critique. Voilà, en tout état de cause, qu'on soit, enfin, si on est majoritaire, ce sera évidemment plus facile. Mais même si on n'est pas majoritaire, nous avons la possibilité de déposer des propositions de loi, comme on l'a déjà fait. Il y a 2 ans, on a déposé une proposition de loi sur la planification écologique, qui a été à l'époque votée par le Parti Socialiste, par Europe Écologie Les Verts. À l'époque, la gauche n'était pas majoritaire. Demain, elle le sera vraisemblablement. Donc, nous redéposerons cette proposition de loi. Et si les parlementaires du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts sont cohérents avec leur vote, et ben cette fois-ci, elle passera. Et ça, déjà, ça changerait pas mal de choses.
Eh bien, moi, je dirais que je vous remercie beaucoup d'être passé.
Merci de votre invitation.
Une émission proposée par Yves Glorian pour RDIWA avec Baptiste à la réalisation.